Allez, c'est parti. On est avec Christian aujourd'hui. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors, votre film préféré ?
Eh bien, c'est Le Salaire de la Peur. Alors, Salaire de la Peur, évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, pas mal de vos auditeurs ne l'ont pas vu, ne le connaissent pas. Ouais. Quoique, c'était, je pense, un très grand film qui a marqué au moins une génération, mais qui remonte aux années 60. Et avec deux acteurs formidables, hein, qui étaient Yves Montand et Charles Vanel. Mmh. Bon, c'est un film qui a été tourné en 1953 et que moi j'ai vu, en fait, quand j'avais 10-11 ans. Et je vivais à Dakar à l'époque. Donc c'était du cinéma en plein air.
Ouais.
J'étais un peu dans l'ambiance torride d'ailleurs du film.
Ouais.
Et à 10-11 ans, ce film, il m'a vraiment marqué, quoi, parce que c'était d'abord sans doute un très grand film, mais l'histoire est dure, quoi, hein, l'histoire est très dure. Et
alors,
voilà.
Justement, l'histoire, un petit résumé rapide pour donner envie à nos auditeurs.
Voilà, bon, il y a des gars qui galèrent là quelque part dans un pays d'Amérique centrale, et puis ils apprennent qu'il y a un incendie dans un puits de pétrole. Ils cherchent des volontaires prêts à tout pour aller transporter de la nitroglycérine qui va servir à souffler les puits de pétrole en feu. Bon, c'est donc une mission extrêmement dangereuse. Ils partent là-dedans. Alors, bon, évidemment, ils sont, je pense, 8 à partir, hein, 4 camions. Et en fait, il n'y en a qu'un qui va arriver. Et celui de Charles Vanel et de Yves Montand. Alors, Charles Vanel, lui, il va lui arriver
des bricoles.
Des grosses bricoles en cours. Et sur le retour, ben Yves Montand est heureux, quoi. Il a réussi sa mission, il va enfin toucher de l'argent, il va pouvoir revenir à Paris, il voit le bout du tunnel. Et puis dans un virage, et ben il le loupe et il tombe dans un ravin avec son camion. Voilà, stop, belle fin.
Parfait. Merci Christian.
Voilà.
À la prochaine.
À la prochaine.
À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma.
Hé, hey, c'est quoi le texte ?
Comment on dit déjà ?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir ?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha ! Graffiti Cinéma.
Bonjour et bienvenue dans...
Graffiti Cinéma.
Aujourd'hui, on va parler dans notre deuxième émission enregistrée au Campo Santo concernant la bière au cinéma. On vous propose le deuxième épisode donc de l'Orléans en bière Festival 2023. Après avoir parlé des rousses et des incendies dans les films la semaine dernière et également après avoir parlé avec des brasseurs pendant toute cette émission sur la perception de la bière au cinéma par les professionnels. Et bien cette semaine, on vous propose les blondes au cinéma, justement un autre grand pan très important de la culture de la bière et du 7e art. Et on vous propose également en deuxième partie un grand quiz sur la bière et les films, justement les meilleurs films et les meilleurs jeux de mots avec la bière, jeu concocté par Juliette. Donc on remercie toute l'équipe évidemment de l'Orléans Bière Festival qui nous a accueillis, Mathieu en premier, et puis évidemment tous les techniciens qui étaient là avec nous encore pour cette édition là. On était très heureux de participer à cette édition encore une fois, et on conclut le mois d'octobre dans la joie, la bonne humeur, le 7e art, la bière évidemment, mais avec modération. C'est parti. Cléo, tu dis bonjour ?
Bonjour.
Mademoiselle Monroe, c'est l'heure.
Comment avez-vous débuté ?
Baby.
Débuté quoi ?
Dans les films.
But diamonds are a girl's best friend.
Je crois que j'ai été repérée. Je sais qu'avec le temps, on est censé s'y habituer. Mais moi, je n'y arrive pas. J'ai joué Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. voudrais pas une scène de plus dans la peau de Marilyn Monroe.
Les blondes au cinéma, un angle intéressant justement quand on parle de bière, on va forcément partir vers des teintes de folie.
Je te coupe. Une dépêche vient de tomber.
Ah.
Quand il y a l'info, il y a une breaking news. Moi, je vais vous faire une petite dépêche qui est arrivée récemment. C'est une fameuse dépêche, Ivre Virgule. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je les ai trouvés un peu sur Internet. Je fais un énorme bisou au groupe Facebook qui s'appelle Ivre Virgule. Hein, un groupe de passionnés qui recense toutes les dépêches et les articles de journaux sur des gens ivres et qui font un peu n'importe quoi. Alors, il y en a une petite dizaine, mais là, je vais vous ponctuer l'émission avec celui-là.
Faut qu'on trouve si c'est vrai ou faux.
Ah, tu peux essayer. Non, tout est vrai. C'est que c'est tellement fou que tout est vrai, quoi. Alors, Ivre Virgule, il change de nom et découvre quelques jours plus tard qu'il se nomme maintenant Céline Dion.
Vache. Ça mériterait d'exister.
Alors, ben voilà, je t'explique comment ça marche. Thomas Todd, grand fan de la superstar canadienne, a récemment eu une super idée en regardant un concert de son idole en direct à la télévision. Un peu éméché, le jeune anglais de 30 ans a tout simplement décidé de changer de nom pour prendre celui de Céline Dion. Au moment de faire ses démarches officielles, il a été quelque peu surpris quand, quelques jours plus tard, il a découvert une grande enveloppe blanche chez lui, confirmant sa nouvelle identité. « J'ai failli m'évanouir dans ma cuisine quand je l'ai ouverte », a-t-il raconté au Birmingham Live. D'autant plus que Thomas Todd a payé 100 euros pour son nouveau nom soit validé légalement, mais il a aussi demandé 8 certificats attestant sa nouvelle identité, qui coûtaient plus de 10 euros chacun. Donc il a dépensé presque 200 euros pour ça. Si le jeune manager a fini par rire de son nouveau nom, sa famille a eu plus de mal à s'y faire.
Tu m'étonnes.
Sa sœur et sa mère n'ont pas vraiment trouvé ça drôle. Mais Thomas Todd, enfin Céline Dion, n'a pas l'intention de revenir en arrière. J'ai expliqué à ma mère que ça aurait pu être pire. J'aurais pu m'appeler Boris Johnson.
Mais voilà. C'est vachement facile de changer de nom alors en Angleterre.
Eh ben voilà, mais c'est ça. Je me dis, il n'y a qu'un anglais pour faire ça, quoi. Je me dis merci Angleterre qui va se balader. Généralement, j'en ai une autre avec un anglais, vous verrez. C'est pas piqué des verres.
Bon, en tout cas, c'est un joli plaidoyer pour la bière de dégustation.
On m'avait pas dit que je participais à la petite histoire de Pierre Belmar.
Sébastien, il est venu en cinéphile et il arrive en birophile. Et en tout cas, on est très content d'avoir ça pour un Ivre Virgule. Et c'est vrai que, Juliette, on était rapidement parti sur l'angle des blondes au cinéma quand on s'est dit qu'on allait repartir dans cette aventure du Campo Santo et de la bière et du cinéma. On a eu un brasseur qui s'appelait pas Claude. On est en train de digérer la nouvelle parce que ça fait quand même 2 ans qu'on le cherche. Mais la bière blonde contre la bière brune, rien que pour vos cheveux, c'est quand même un débat assez important quand on parle de cinéma. Et justement là-dessus, dans tes recherches, qu'est-ce que tu as pu nous trouver sur ces fameuses blondes?
Sur la bière blonde ou sur les blondes?
Choisis ta préférée.
On peut déjà peut-être préciser la bière blonde ce que c'est, quoi. C'est en fait.
C'est quoi déjà?
Ça ne veut rien dire. En fait, les maltes qui composent la bière blonde sont en majorité pâles ou claires et qui ne sont pas torréfiées. Donc du coup, la bière est claire. Donc en fait c'est un indice qui permet de mesurer la couleur de la bière. On peut dire en 2021, selon le World Beer Awards, la meilleure bière blonde du monde est française. Il s'agit de la bière Anosteke Blonde de la brasserie du Pays Flamand. Une bière de type Pale Ale, au houblon bio et au malt français.
Ok, mais bon, ça je savais, maintenant peut-être rentrer dans des trucs un peu plus techniques ou...
Tu veux des trucs un peu plus techniques? Alors,
non, c'est juste pour
te retrouver dans le choix de ta bière. Vas-y. Tu peux t'orienter selon leurs origines. La bière belge, elle sera plus ronde et levurée. La bière allemande sera plus légère et désaltérante. La bière anglaise sera plus sèche et amère. Et l'américaine, elle aura une palette aromatique plus marquée. Sinon, tu peux t'orienter vers des styles. Une IPA, amère et aromatique, une triple, ronde céréalière et chaleureuse, ou une golden ale, très céréalière et maltée.
Merci beaucoup, et c'est bien de parler de ces bières, de ces blondes qui ressentent l'impression. Et maintenant, il y en a d'autres, hein, des blondes qui toi, il n'est pas prêt pour genoux. D'autres blondes qui, elles, ont subi d'autres pressions, et évidemment, les blondes de cinéma. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything
do they don't. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Les blondes au cinéma. Bah, en fait,
moi j'en ai des blondes au cinéma.
Bah oui, il y en a un paquet, mais la blonde au cinéma,
je vois l'antisèche.
C'est quand même une évolution sur tout le cinéma, finalement. La figure de la blonde au cinéma, déjà quand on a commencé, on était en noir et blanc. Donc la chevelure blonde et la chevelure brune n'avaient pas le même impact. Pendant très longtemps, la blonde c'était la gentille, la brune c'était la méchante. Il y en a même encore qui jouent sur ce tableau.
Alors les blondes pour Hollywood, c'est un ouvrage qu'on voulait vous citer, qui est dans l'excellente collection Capricci, Marilyn et ses doubles d'Adrien Gombeau. C'est un ouvrage du cinéma qui est essentiel parce qu'il parcourt justement les clones de Marilyn Monroe. Et vous connaissez la fameuse phrase qu'a dit le directeur de la Warner quand il a appris la mort de Marilyn Monroe. Trouvez-moi une autre blonde. C'est quand même hyper cool comme épitaphe. Et figurez-vous qu'il y a beaucoup de producteurs à Hollywood qui les ont cherchés. Et dans cet ouvrage, on parcourt les blondes du cinéma qu'on a à un moment donné destinées à remplacer Marilyn Monroe. Il y a Mamie Van Doren, par exemple, qui est une américaine. Et à qui on dit bah tiens tu ressembles à une néo-zélandaise donc on va t'appeler Mamie Van Doren, voilà. Donc elle a passé sa vie à faire ça. Elle voulait justement se démarquer de Marilyn Monroe et faire un bain de champagne pour montrer devenir une pin-up et une grande star du cinéma. On lui dit non Marilyn Monroe elle l'a déjà fait, donc bah du coup tu vas prendre un autre bain, ça va être un bain de bière. Figurez-vous que ça ne s'invente pas quand même. Elle fait un bain de bière et elle décide en tout cas de tenter comme beaucoup d'autres de se démarquer du fantôme de Marilyn Monroe. Après la mort évidemment de cette actrice iconique, c'est ça qu'on connaît, hein, qui est évidemment incontournable encore aujourd'hui, quasiment plus de 70 ans après sa mort. Quoi. Thomas aussi.
Ouais, c'est formidable parce que tu parles de blondeur au cinéma, mais il y a une grosse partie des films de Marilyn Monroe sont en noir et blanc aussi.
Oui.
Donc c'est plutôt très, très rigolo de se dire que même en noir et blanc, elle a imprimé la pellicule.
Et en plus, elle n'était pas blonde au départ, quoi.
Ah non, ça. Et je peux vous citer Corinne Calvet, qui est une pionnière des actrices françaises à Hollywood, qui est repérée à Paris pour sa gouaille par des producteurs américains. Et elle ressemble à Rita Hayworth. Et elle a une carrière exceptionnelle. Et figurez-vous qu'à un moment donné, elle est invitée par Orson Welles juste parce qu'elle ressemble à Rita Hayworth. Elle décide de parler à Orson Welles, assez intimidée. Orson Welles lui dit chut, chut. T'es juste là parce que tu lui ressembles. Il venait de rompre avec Rita Hayworth. Il avait juste besoin d'une femme qui lui ressemblait pour se consoler de cette rupture.
c'est quand même assez dingue de voir ce que ces femmes, à un moment donné, ces comédiennes, on leur a imposé comme faveur ou défaveur. Et la plupart du temps, elles en ont évidemment souffert. Il y a beaucoup de morts tragiques hein, dans ces actrices qu'on a voulu récupérer pour continuer la légende de Marilyn Monroe. Vous avez Lise Renée qui gagne un concours de sosie de Marilyn Monroe au début de sa carrière, qui développe des liens avec la pègre, et Mickey Cohen, qui avait notamment une main sur les syndicats du cinéma, et énormément de ce quotidien qui est évoqué dans Babylone, hein, évidemment, de Damien Chazelle, hein, que Sébastien, qu'on peut citer, Babylone, qui dévoile évidemment beaucoup, beaucoup de coulisses de cet Hollywood fantasmé.
Oh, bah, tellement fantasmé. Je ne sais pas si c'était vraiment fantasmé à l'époque, mais là, il y avait pas mal de consommation de bière, je pense, aussi à ce moment-là.
Oui,
mais,
voilà.
Mais c'est vrai qu'on voit déjà Margot Robbie, qui est l'actrice blonde par excellence de nos jours, je trouve. Et même, sans parler de Damien Chazelle, je trouve qu'il y a certains réalisateurs, ils imposent encore certaines actrices blondes, par exemple Tim Burton, pour ses histoires,
oui.
Impose encore, parce qu'il a des personnages de femmes pures,
oui.
À ce moment-là, elles sont encore blondes, justement. Je repense à Winona Ryder, qui était la gothique par excellence,
oui.
Dans Beetlejuice.
Tout à fait,
elle, oui. Était blonde dans Édouard aux mains d'argent. Mm-hmm.
Et c'est vrai que c'est cette figure-là de la blonde au cinéma continue à traverser les âges, hein, dans toutes ces périodes, en tout cas des années 50, vedette pour ça, c'est important. On rappelle qu'une des premières, évidemment, c'est Marilyn Monroe qui va l'incarner, mais elle-même s'inspire d'autres modèles féminins dans les années 30. Il y a le cas de Barbara Payton aussi qui est importante, qui meurt à 39 ans, qui tourne avec James Cagney, qui est un des grands comédiens du Hollywood des années 50-60. Son dernier employeur est la Warner, elle tourne dans Détour en 43 et elle meurt à même pas 40 ans. Donc c'est quand même des carrières stratosphériques terribles, et puis dans des déchéances absolues. Les comédiennes à cet âge-là, on sait qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur des comédiennes qui tournent moins après 40 ans. Là, après 25, dans cet Hollywood, c'est assez impitoyable. On voit déjà qu'elles ont du mal à enchaîner.
Comme les copines de Leonardo DiCaprio, quoi.
La transition n'est pas facile. Qu'est-ce que c'est que cette punchline sur le Mandaro, y compris au laisser.
Léo, si tu nous écoutes, on est désolé.
On s'excuse. Ouais, il avait validé de venir la semaine prochaine.
Ouais, il devait venir finalement, il est non.
Je suis périmé pour Leonardo DiCaprio.
Je voulais aussi vous raconter l'histoire de Barbara Nichols, qui parmi justement ces comédiennes qui on a imposé la blondeur, cette chevelure de feu. Elle tourne dans les années 50 avec des gars un petit peu connus dans le métier, enfin en tout cas qui vont percer plus ou moins. C'est Nell Oumet, Fritz Lang,
Stanley Donen. Le frère de Hal.
Hal Oumet.
Oui.
Raoul Walsh.
C'est le cousin notamment. De Cal aussi.
Donc je la relève plus, celle-ci, elle est terrible. Ouais. Et figurez-vous qu'elle va tourner dans un film, La Blonde ou la Rousse, avec Kim Novak. Barbara Nichols est blonde, Kim Novak est blonde, donc vous imaginez le duel de chevelure qui se passe sur le tournage. Qu'est-ce qui se passe? Kim Novak décide d'aller voir le producteur et elle exige que Barbara Nichols change de couleur de cheveux. C'est quand même assez improbable. Il pouvait pas y avoir deux blondes sur le même film. Et on voit en tout cas à quel point ça a pu aller loin pour des choses qui aujourd'hui peuvent nous apparaître dérisoires, mais qu'on avait pu évoquer dans d'autres films. Hein. Thomas, je crois que ça te fait réagir.
Ben, c'est pas que ça me fait réagir quand tu dis que c'est dérisoire de maintenant, mais je pense que c'est toujours pas dérisoire maintenant.
Ah bah non.
Je suis sûr que tu auras un livre d'histoire. De l'histoire des années 2000 où tu verras ce genre de réaction se produire toujours sur les films. Il y a une histoire d'ego et de représentation qui est très très fort. L'idée même que on n'a pas parlé, mais à chaque fois que généralement tu vois une blonde au cinéma, on a tendance à la faire jouer l'ingénue pour être assez soft sur le mot jusqu'à la bêtise assez crasse et le fait que pas mal d'actrices finalement se prêtent au jeu sans
c'est carrément un film, hein, voilà. Les Galies Blondes, hein.
Oui, voilà, non mais voilà, on peut très bien se dire voilà, Les Galies Blondes c'est une parodie, mais
ça existe, quoi.
Il y a toujours une sorte, voilà, on se demande où est le premier degré là-dedans, si voilà, ça peut parler à tout le monde en se disant moi, t'as des spectateurs qui le prennent au premier degré en disant bah oui, c'est complètement bête, et d'autres qui disent mais non, il y a un troisième, quatrième, cinquième, un peu comme Barbie cet été.
Hein, voilà. Eh ben, on en vient là, mais
c'est... on y arrive forcément. Ah, on y arrive. Voilà. Alors, bah, justement, Sébastien, on va parler de Barbie, parce qu'il y a un des films événements de l'été, et puis je finis juste.
Pas un petit événement, en effet.
Oui, voilà. On va arriver à Barbie, parce que je finissais mon tour des blondes, et je pensais que sur ce parcours-là, il y avait évidemment Jane Mansfield, qui était incontournable, qui est évidemment un des derniers grands clowns. De Marilyn Monroe quand on a souffert, hein, je le dis pas de manière dépréciative, mais c'est vrai que on constate à quel point on a jusqu'au bout tiré la volonté de remplacer Marilyn Monroe de son vivant quand elle décide de rompre avec la Fox, mais juste évidemment après sa mort de beaucoup plus, tout en méprisant Marilyn Monroe parce qu'on pensait qu'elle était remplaçable, donc en méprisant évidemment ses qualités de comédienne et l'impact qu'elle avait dans la pop culture. Jane Mansfield, c'est la blonde pantureuse, une comédienne qu'on a toujours fait, on lui a filé des scénarios que Marilyn Monroe refusait, donc de la blonde idiote. Elle meurt tragiquement dans un accident de voiture à 37 ans. Ses enfants étaient dans la voiture, ils sont miraculés derrière, et elle a 163 de QI, et on lui a fait jouer toute sa vie, alors qu'elle a le QI d'Einstein, on lui fait jouer des niaises à l'écran. Donc on a vraiment le symbole là de la blonde et de la comédienne qu'on n'a pas voulu diriger, mettre en scène. Et c'est vrai que Barbie parle beaucoup de ça quand on évoque ce film événement de l'année, Sébastien.
Oui, parce que c'est un film qui voulait un peu, sur le papier, casser l'image déjà, en dehors du cinéma, de la poupée sexiste, enfin de l'image de la poupée sexiste qu'on a eue pendant des années et des années. C'est vrai que dès que le film démarre, en fait, bon, bien sûr, démarre sur Margot Robbie, la blonde, la Barbie blonde que tout le monde connaît, mais on nous présente ce monde tout de suite avec plusieurs Barbie différentes, des postes différents, des corpulences différentes, et du coup, des couleurs de cheveux tout à fait différentes. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est la blonde qui est mise en évidence. Mais on a pas mal de... Parce qu'on a... On avait la sosie à un moment qu'on disait de Margot Robbie qui est Emma McKay, qu'on avait découvert dans Sex Education, même dans Sex Education, elle avait démarré avec une chevelure blonde, un peu rose. Et au fur et à mesure, elle s'est affirmée aussi avec une chevelure un peu naturelle, un peu plus brune. Et justement, dans ce film, elle arbore également sa chevelure brune.
Hé, hey Barbie. Je peux venir chez toi ce soir?
Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbie, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer?
Trop cool. You can find me under the
lights, diamonds under my eyes. C'est une journée de rêve.
Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort?
Alors, c'est vrai que Barbie, c'est un film événement de l'année. Il y a beaucoup de traitements hein, et de critiques sur Barbie. Juliette, je vois que ça te fait trépigner.
Non, c'est juste parce que je trouve que... Enfin, le film finalement correspond à la mode de Barbie puisque elle, en ce moment ça joue à fond, Mattel joue à fond l'intégration et tout ça, donc il y a la Barbie trisomique qui vient juste de sortir, enfin, donc pour moi c'est, le fait qu'on voit une Barbie brune, qu'on voit une Barbie enrobée, tout ça, finalement je trouve que c'est le marketing de Barbie depuis déjà quelques temps finalement, donc en fait rien que le fait de sortir un film Barbie, je trouve que c'est comme les Galibes blondes, quoi. C'est... Je fais un truc pour faire comme si j'étais contre, mais j'ai quand même cet a priori, quoi.
Est-ce que vous avez les mêmes avis autour de la table? Parce que c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir vu Barbie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est vrai qu'il fait énormément débat. Puis on rappelle que c'est quand même des chiffres invraisemblables. Hein. Personne ne s'attendait. Ouais, enfin, je pense que même quand on a les plus grands espoirs, les producteurs n'imaginaient pas que ce film prenne feu comme ça.
Personne ne s'attendait, oui et non. Oui et
c'est
non
Barbie,
parce que
quoi.
Oui et non parce que le marketing était très très bien très bon dans
très
le
bon
sens
marketing,
où
ouais.
On a commencé à sortir il y a un an un projet Barbie en disant ouais. Alors tout le monde se disait mais non c'est impossible, c'est pas ça, ça va pas être faisable avec des vrais acteurs. On commence à lancer un peu de casting, on se dit bah ouais Ryan Gosling il a cette tête parfaite de Ken. Un petit peu bêta, voilà, c'est possible quoi. Et donc, du coup, le buzz prend, et c'est très très bien amené par une bonne influence sur les réseaux, sur la façon de regarder le film. Par contre, quand on voit le film que j'ai vu récemment, sans vraiment un grand plaisir, c'est comme tu disais tout à l'heure sur les Galibes blondes, il y a ce côté, voilà. On ne va pas jusqu'au bout de l'idée. Soit on fait un film beaucoup plus dur sur la façon de représenter le patriarcat, tous les problèmes qui agitent en ce moment. Mais on essaye de se dire, oh, je le fais avec un premier degré en disant, vous voyez, venez acheter quand même des Barbies, quoi.
Alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose de plus dur, de plus osé, c'est-à-dire de prendre un parti. Il n'y a jamais de parti. C'est thèse, antithèse, synthèse, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors bon,
ça nous rappelle la fac.
Ça, c'est bien pour un bouquin d'histoire, c'est formidable, mais pour un film, je veux qu'il, pour moi, je veux que le film ait un point de vue quelque part et qu'il me dise. Voilà, je pense politiquement comme
c'est,
ça. Pourquoi
c'est pas prendre de risques en fait. C'est voilà, comme ça, je suis sûr de plaire à peu près à tout le monde.
Ça. Alors évidemment, après, tu pars avec plus d'un milliard de recettes. Bon, bah, c'est formidable. mais c'était presque couru d'avance que ça fasse un milliard.
Bah, et puis, t'as une petite fille, tu vois.
Je sais pas, ça peut être, on peut en parler, Sébastien.
Et surtout, je pensais à ça justement parce que là, avec le succès que le film a eu, c'est une énorme porte d'entrée de la firme Mattel dans le cinéma parce que là, ils ont annoncé beaucoup de projets. Bon,
terrifiant d'ailleurs ce projet.
Ah bah, ça fait un moment qu'on en entend parler. Il y avait Hot Wheels de J.J. Abrams, mais oui. Là, on parle de Polly Pocket aussi, une autre poupée. Donc là, c'est.
Non, c'est un grand nom là. Non, mais c'est ça. Vrai oui, qu'on peut se poser la question d'un Marvelverse. Un Mattelverse, décidément. Un autre MCU, mais le potentiel le laisse un peu pantois, quoi.
Mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'on en est presque à se poser ce genre de questions. Et on ne devrait pas se les poser. Mais oui, ben voilà. Alors on a un super monsieur dans le public, un énorme t-shirt, incroyable. Barbirian. Alors voilà, pour ceux qui voient le jeu de mots.
On est dégoûté de ne pas avoir trouvé le jeu de mots, mais on.
Mais oui, mais oui. Mais non, mais voilà, le monsieur va finir torse nu, on va lui piquer son t-shirt.
Ah bah oui, on va se mettre. Apparemment, il faut qu'on se mette à trois, mais ok, ça marche. On va débattre de ça. Bah, en tout cas, le temps qu'on s'entraîne, qu'on s'échauffe, ce que je vous propose, c'est qu'on a Loïc, justement, qui va nous permettre de bosser pendant 5 minutes, d'aller justement déguster une bière.
Exactement.
Parce qu'il y a la chronique de Loïc. Et Loïc, on est ravis de t'accueillir pour la première fois cette saison dans l'émission. Ça faisait longtemps
oui,
qu'on n'avait pas vu ta marinière chevauchant les flots.
Je crois que la dernière fois, c'était l'année dernière au même festival. Je crois que tant que vous ne m'offrez pas une bière à chaque fois, je ne viens pas.
Ça nous coûte cher. Hein. Alors tout ça pour
non,
une chronique.
Il était revenu, mais c'était les attentats en France et je crois que ça lui a fait peur.
Bah, c'est deux passions. C'est deux passions dans la vie.
Non, mais là, en fait, je ne viens pas avec la chronique habituelle. Je viens vous parler de bière et cinéma. Curieusement.
Ça tombe bien. On aurait fait exprès que ça aurait pas été mieux.
Donc j'ai envie de commencer en disant avec modération.
Oui.
C'est important et ce sera valable pour toute la chronique. La bière au cinéma, c'est un vaste sujet. Mais vous êtes tous autour de la table d'éminents spécialistes du 7e art. Des docteurs en grand écran, des chirurgiens dont l'œil aiguisé chasse le moindre petit détail. Et bien entendu, des fines lames de la critique. Toutefois, permettez-moi, pour une fois, de faire un pas de côté et, tournant le dos au film, de m'intéresser à la salle. Que voyons-nous alors ? Un rassemblement hétérogène d'homo sapiens sapiens, parfois homo sapiens sapiens, hein, ça dépend du film. Des grands, des petits, des gros, des moches, des beaux, ils sont loin, ils sont proches. Bref, ce qu'on voit est une chose, mais ce qu'on entend en est une autre. Car parmi cette clique dépareillée, il y a les bouffeurs de bonbons, les suceurs de glace, les rongeurs de pop-corn. Non mais franchement, c'est insupportable. Des bruissements de paquets, des scrouch-scrouch, des claquements de mandibules et des bruits de succion. Vous supportez-vous les bruits de succion ? Quel est l'intérêt de sucer au cinéma ? Alors, aucun ! Avec une bière, vous accueillez tendrement la mousse au bord de vos lèvres, pas en tirant sur une paille comme un siphonneur de réservoir, mais une petite gorgée à la fois, tendrement, délicatement. La bière a ce talent de susciter la douceur de l'enfance. Imaginez-vous en entrant debout, une pinte à la main, dans une salle de cinéma. Ce petit pot de liquide pétillant vous donne une stature, de la prestance. Il modifie votre attitude et vos actions. Vos gestes sont lents et délicats. Il convient de ne rien renverser. Vous n'hésitez pas, ainsi équipé, à laisser passer quelques gens pressés. Vous poussez la porte avec une attention subtile. Vous descendez les marches, gracieux et sûr de vous. Fier de ce petit assemblage de nature que vous tenez dans vos bras comme un nourrisson fragile. Vous n'avez pas bu une goutte que vous savourez déjà ce plaisir pavlovien, entretenu par une odeur suave et le chant aérien des bulles légères qui s'amusent en musique. Enfin, assis, cette bière vous accompagne et participe au plaisir de voir un film. Tout le monde sait pourquoi on boit une bière avec ses amis. ça nous occupe lorsqu'ils parlent d'eux et qu'on s'en fout. L'expression « tu saoules », ça vient de là. Hein. Ça nous donne une contenance quand on ne sait pas quoi se dire et ça nous ramène à des plaisirs ancestraux de mettre à la bouche de l'agréable. Toutes ces expériences valent pour le cinéma. Légèrement enivré d'un alcool raisonnable, vous êtes fin mûr pour accueillir ce voyage mental dans l'autre monde qu'on vous propose et si le film est mauvais, ça vous aide à tenir jusqu'au bout. Parfois même, ça vous aide à le trouver bon. Pour conclure, la bière, interdite dans les cinémas, devrait au contraire être obligatoire, comme les libations antiques répandant un liquide en offrande à une divinité. La bière ouvre nos esprits et nous allège du fardeau de notre quotidien pour laisser nos âmes divaguer au rythme des images en action. Bon film et à la vôtre.
Merci beaucoup.
Ah, franchement, là, on part sur de bonnes bases. On comprend pourquoi tu viens qu'une fois par an, parce qu'il faut quand même bosser tout ça.
En tout cas, merci pour ce moment de poésie.
Voilà. Alors, Thomas.
Moi, ce que je vous propose, c'est un autre moment de poésie.
Oui.
Alors, un autre Ivre Virgule pour qu'on... conclure un petit peu cette partie.
J'ai peur de la transition, mais merci Loïc.
Moi, je vous propose un ivre virgule, il bénit les gendarmes avec la brosse des toilettes.
Merde, on n'est pas prêts.
J'ai tout de suite envie d'en savoir plus. À la barre du tribunal correctionnel, il s'excuse, penaud. Difficile d'imaginer cet habitant de Segré 40 ans dans un état second. Ce qui lui vaut de comparaître, ce 14 juin, pour des violences sur sa compagne et les gendarmes, accueillis par des insultes et des gestes obscènes et humiliants. Alors, je vous passe un petit peu tout ce qui s'est passé au milieu. La tension monte d'un cran. Le quadragénaire perd complètement pied. Après avoir uriné dans l'évier sur la vaisselle, il se rend aux toilettes et revient, les parties génitales à l'air, avec la brosse des toilettes. Avec l'objet rincé à l'eau claire, il esquisse un signe de croix devant chacun des deux gendarmes. Une sorte de bénédiction. Ouais, mais oui, il est sympa. Une sorte de bénédiction avec de l'eau souillée. Voilà, tout ça, c'est vraiment bien. C'est passé, un secret, c'est dans l'Anjou.
Bon, mais par contre, c'est quoi le but de pisser dans l'évier pour après aller aux toilettes chercher la brosse à toilette ?
Si le but, c'est quand t'es ivre, tu cherches pas à savoir. Tu te dis oui.
Ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a vraiment une raison à chercher à tout ça ?
C'est beau, c'est qu'il y a un.
C'est pour pas être enfermé dans un cadre, tu sais, c'est bien. Exactement.
L'excentricité, c'est important. Et en tout cas, on est content, en tout cas, de refermer cette première parenthèse autour des blondes du cinéma. Moi, je vous cite une dernière fois les références, ce bouquin. Donc, Des blondes pour Hollywood. Si vous êtes intéressé vraiment par le sujet, Marilyn et ses doubles, c'est d'Adrien Gombeau et c'est aux éditions Capricci.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew Magoo. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine.
Bravo! Bravo!
Bon les amis, on est content d'être à l'Orléans Bière Festival. On va continuer à vous proposer des sons, des chroniques déviées de nos univers parallèles entre bière et cinéma. Et on va enchaîner potentiellement avec des quiz, évidemment, puisqu'on a plein de lots à remettre. Des lots magnifiques. Alors on peut présenter cette affiche qu'on vous a concoctée cette semaine. On cherchait un jeu de mots avec bière à faire gagner. Et on est parti d'un jeu de mots top shop. Parce qu'évidemment, la shop, c'est quand même l'arme de destruction massive de la bière de dégustation. Et on est parti sur cette reconstitution d'un film avec Sylvester Stallone, Over the Shop, le bras de bière, en hommage à ce Over the Top, le bras de fer. Sébastien, on connaît le film original ?
Eh ben, je vais te décevoir. Non.
Tu ne connais pas Over the Top, le bras de fer, ou Sylvester Stallone récupère.
De voir l'affiche me donne envie. Je verrai sans doute pas ça dans le film. Mais ça me donne envie.
Over the Top, le bras de biais-fer. Sylvester Stallone récupère la garde de son enfant avec des bras de fer. Est-ce que nos candidats vont récupérer leur vie, finalement, un sens à leur vie grâce à la bière? On va tout de suite en parler avec Thomas et les agents.
Placez vos coupes sur les marques. Et voilà enfin face à face.
Non, c'est pas un truc. Je retourne ma casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Là, c'est bizarre. Je deviens un autre homme. Je deviens comme...
Alors Juliette, on a des candidats autour de la table. On est ravis de remettre des lots et de faire des quiz avec tous les fans de bière autour de la table. Ah bah déjà, on va vous laisser vous présenter les amis.
Bonjour Nicolas,
enchanté. Alors, Nicolas, on va te laisser te rapprocher du micro parce que tu as une voix bien plus jolie que la mienne.
Bonjour Nicolas,
enchanté. Nicolas. Et ton adversaire sera
Manon.
Manon contre Nicolas, le bras de fer, évidemment, métaphorique, hein, allez pas nous faire des accidents, on n'est pas assuré. Est-ce que vous êtes prêts à potentiellement remporter ces quiz et repartir avec des lots gênants?
Allez, on y va, on va tester.
Ok.
Allons-y.
De toute façon, vous partez avec. Hein. C'est. Genre, on n'est pas là, voilà.
Oula, bah, on les a ramenés, c'est pour s'en débarrasser.
Le coffre est plein, les amis. Alors, ce sont des quiz bière et cinéma. On a évidemment des affiches à vous faire gagner, des affiches originales, des vraies affiches de films et une place de cinéma à faire valoir dans le pâté. Parolier, pâté,
Orléans. Sur...
Jusqu'au 30 novembre, évidemment, la shop de la mort qui tue a gagné une shop collector. Ah non, non. Pas pleine, faut quand même pas abuser, même si ça, potentiellement ça pourrait doubler sa valeur.
Très vintage.
Et on va commencer avec le quiz Juliette, bière et cinéma. Et on va présenter évidemment ces questions à nos candidats. On t'écoute.
Alors, j'ai plusieurs quiz. Je ne sais pas si on fait choisir les catégories ou si on les impose.
Bien sûr, on fait un toss.
J'impose. Alors, on va commencer par un quiz muscle croc.
Attention, muscle croc.
Muscle croc.
Donc il y a, on peut expliquer, on peut expliquer, hein, traite tout de suite
non,
à nos candidats.
On n'explique pas, on va comprendre tout de suite avec la première question.
Allez, première question, quiz muscle croc.
Alors attention, ce sera de la rapidité. Acteur néo-zélandais mythique en jupette dans Gladiator.
Russell Crowe,
exceptionnel, 1-0. Et oui, il y a Crowe dans la réponse. C'était ça le mode d'emploi.
Voilà, c'est gênant.
Russell Crowe. Ok, c'est parti.
Un film de 1994, une vague histoire de corbeau dont le tournage s'est soldé par la mort du fils de Bruce Lee.
Mort de Bruce Lee.
Un corbeau en anglais.
Corbeau en anglais. Là, on a un ami qui faisait super bien le corbeau. Je fais le corbeau.
On a le droit de tricher.
Bien sûr qu'on peut tricher. Si ça ne se voit pas.
Le croc.
Oh là là. L'égalisation de Nicolas qui a eu. Ça vient d'où? Ça vient de.
Nos
voilà,
c'est sont trop jeunes.
C'est trop beau. Un partout, les amis. C'est fantastique.
Le roman de Jack London, adapté de nombreuses fois à la télévision et au cinéma.
Gros blanc.
On a un littéraire. Boum, deux points. Non, je plaisante.
Un réalisateur canadien de 80 ans aux commandes notamment de Vidéodrome, La Mouche, Faux-Semblant,
Cronenberg.
History of Cronenberg. Violence, Existence, Cronenberg. Attention, un film australien de 1986 avec Paul Hogan, où une journaliste américaine plutôt urbaine rencontre un aventurier à grand couteau. Ils sont trop jeunes encore, nos candidats.
C'est vrai ?
Allez, un Australien avec un chapeau.
Des crocodiles.
Crocodile
Dundee.
Oh là là.
C'est cadeau.
La passe décisive. C'est odieux, mais ça fait un point.
C'est le jeu.
Et ça, c'est beau.
Incarné par Dustin Hoffman face à Robin Williams, qui a pourtant bien grandi dans Hook de Steven Spielberg.
Oh, il est plus dur celui-là. Franchement, on le met à deux points celui-là.
C'est un
Crochet.
Personnage. Comment?
Crochet ou?
Oui, le Capitaine Crochet.
Capitaine Crochet, ça passe ou pas?
Ça passe, Crochet. Okay.
On l'avait
c'est
mis à deux points.
Nom. Comment?
On l'avait mis à deux points ou tu veux les départager
avec un
point?
Non, un point, une question, un point.
Eh bien, ils sont ex aequo, nos amis, là. Donc, il nous faut une quiz, une question
continue.
Finale.
Non, non,
attends, il y a d'autres quiz.
Allez, d'autres
allez,
quiz, d'autres, quiz
passe...
ou d'autres candidats.
Deux candidats.
Le truc vache.
Très bien. Attention, on passe sur un quiz bière ou bière. Pareil, je n'explique pas. Une chanson des Beatles.
Oh la vache.
Celui-là, je vais peut-être devoir le donner pour vous orienter sur comment ça se passe. Thomas.
Let it beer.
Voilà, let it beer.
C'était okay. Pour l'exemple. Okay.
Voilà, c'était bah, l'exemple. C'est,
alors, j'ai entendu le ah ok, Nicolas.
Ouais, il est désespéré.
Ah, ils sont cons à ce point-là.
Un truc sur la bière.
Ils sont bêtes comme ça. Ok.
Il
s'est cru la question pour un champion. Ils regrettent d'être assis à la table.
Ils débarquent. Non, on est en dessous Burger Quiz, les gars. On n'est pas en
réaliser. Non, moi, je me trouve pas mal à la Chabat. Réaliser deux choses à la fois avec une seule action. Faire d'une
pierre de coups.
Faire d'une bière de coups, faire évidemment.
C'est exceptionnel de pouvoir répondre à ça.
Telle est la question pour Hamlet.
Oui, je... ah, c'est bien ça. Mais si...
Hamlet.
Rappelez-vous.
Être ou ne pas être.
Deux.
Non.
En anglais. Oui, faut pas hésiter. Il faut dire fort, on se fiche. Oui.
Ah oui. Beer or not to beer.
Beer or not to beer.
Effectivement.
La et l'auteur de Hamlet.
Shakespeare. Ah merde, vous j'ai répondu.
Il a envie de jouer, Romaric. Romaric a un point, il veut la chope.
Non, mais tu me regardais, donc du coup, je l'ai lâché, Shakespeare.
Bon. Oh là là, Star Wars épisode 5.
Star Wars épisode 5. Oh non. Oh non, c'est odieux.
Mais oui. Voilà. L'Empire contre-attaque. Oh, l'Empire contre-attaque. Oh, magnifique.
Il donne son point.
Il donne son point
il
à qui
donne son point.
C'est dégueulasse.
Là, ça fait 4 peut donner le mien aussi.
J'ai 5-4, moi.
Les amis. Ah, 5-4 pour Manon.
Alors, j'ai 5-4, Manon.
Un modèle de réseau informatique d'égal à égal entre ordinateurs.
Beer to beer.
Beer to
oui
c'est alors... exceptionnel. Il égalise avec ça.
On reste dans l'univers informatique. Un acte malveillant perpétré contre un dispositif informatique. Une...
Biratage, non ?
Ouais, c'est ça.
Une scie...
Cibière attaque.
Oh là là.
Voilà, une cibière attaque.
Cibière attaque. Ah non, on l'a pas trouvé là.
Alors, alors la dernière question de ce quiz, bière ou bière ? Bah non, après on en fait encore un, on a le temps, on a le temps. Alors, une figure de la Révolution française.
Ah oui, ah oui.
Oh, c'est dur. Il est hostile celui-là. Non, si vous l'avez, franchement, on donne 2 points celui-là, parce qu'il est odieux.
Il a la tête tranchée.
La tête tranchée, bah comme beaucoup d'ailleurs. Ah oui. C'est pas un super indice comme ça.
Ça serait pas Robespierre.
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 Et voilà, donc on reste à égalité pour nos candidats. Mais c'est vrai qu'autour de la table, on a beaucoup de gens qui sont dingues. Donc nos candidats sont sains d'esprit, pas aussi dingues que nous. Et c'est bien pour vous, c'est tant mieux.
Ça vaut mieux.
On va faire dernier quiz pour départager nos invités.
Un dernier, c'est déjà non mais pour. Là, on va passer sur un quiz bière, mais niveau expert. Donc là, c'est sur la bière.
On va être dans la gêne.
La brasserie du Pélican, Belfort, a été fondée en 1921 par Louis Bouquet, Armand de Flandre et Raoul Bonduel, Raoul Casgrain ou Raoul Marquerepère.
Casgrain.
Perdu.
Bonduel.
C'était Bonduel. Romaric. Un petit point pour la jeune dame. Alors, la Grimbergen.
Attends, excuse-moi, un petit point pour qui ? Parce que moi, j'ai pas envie de me faire taper après. Pardon.
Ah, okay. Mais tu suis pas.
Mais tu fais des arts martiaux ou pas ?
Elle fait du Krav Maga et elle se croise pas les muscles.
Je te mets le point, Je te mets le point, alors ça marche.
La Grimbergen a eu pour slogan « Et le silence est d'or, et le silence se fait, et le silence irrite le diable ». C'est une bière d'abbaye, je le rappelle.
La première, je crois.
Perdu. Alors, et le silence est d'or, et le silence se fait, ou est le silence irrite le diable ?
Le deuxième.
Et oui, c'est bien, et le silence se fait.
Et le silence se fait ?
Oui, et le silence se
d'accord,
fait.
D'accord, très bien.
Ce irrite le diable, ça aurait été un petit peu...
Bah si, parce que comme le diable, c'est un fan de métal, ouais, je vous dis, tu vois. On sait très bien que tous les fans de métal sont diaboliques, donc oh, il y a forcément une passerelle.
Quelle horreur. Théorie.
La
brasserie Goudal produit plus d'un million de litres à l'année, plus d'un million de kilolitres à l'année, plus d'un million d'hectolitres à l'année.
Kilolitres.
Perdu.
Qu'est-ce que vous avez dit ?
Faut répondre au hasard.
Alors, litres, kilolitres, hectolitres.
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 Hectolitres. Bah, c'est encore une égalité, mais vous allez vous départager ou pas ?
La Jeanlin est une bière de garde de Belgique, du nord de la France ou d'Alsace ?
Nord de la France.
Bien.
Oh. C'est bon, ça.
Ah, visiblement, la Jean-Lin a du succès.
Bon, les amis, on a 7-6, là. Ça commence à être tendu, votre histoire. Là.
Alors, comme c'est chaud, on continue avec une question chaude. La levrette est une bière autoproclamée de position, avec du recul à un amateur de la levrette. Visiblement, je n'ai même pas le temps de faire les propositions.
Il y a des gens qui entendent, là.
Vous avez vu, levrette sans proposition, quoi. Rapide, hein.
Gros but.
Je ne suis pas de cette acabit. Dans la gamme des bières alsaciennes de Sainte-Cru, il y a l'orange mécanique et la Red is Dead, la Red Planet ou la Red October.
Red is Dead, oui.
Red is dead.
Très bien soufflé.
Quand c'est fait, voilà, quand c'est fait avec de la triche, c'est évidemment accepté. On est à 8-6, les amis. Bon, Nicolas, faut remonter là. Franchement, ouais. On va t'aider à tricher comme tout à l'heure.
Okay.
Parce que bon, même en trichant, là, on n'arrive pas à rattraper.
Alors, on va passer sur une quiz bière, les origines des noms et logos.
Allez.
Créée par Kronenbourg en 2013, la Skål est une bière danoise, la Tuborg, aromatisée à la vodka et au citron. Son nom est celui d'un loup dans la mythologie nordique, mais signifie aussi santé en danois. D'un casque à cornes nordique, mais signifie aussi froid en danois. D'un glacier danois, mais signifie aussi glacé.
La deuxième.
Perdu.
Aujourd'hui, froid en danois.
Non, c'était la deuxième aussi, ça.
Ouais, santé. Bah non.
Eh bien, si, c'était santé. C'était le loup de la mythologie nordique et qui signifie aussi santé en danois. Donc, 0 point. La bière japonaise Asahi porte en fait un nom très courant. Que signifie-t-il ? Bonheur, soleil levant ou karaoké ?
Là, ça veut dire un des trois trucs.
Soleil levant.
Soleil levant.
Exactement.
Magnifique. Une petite courte remontée, mais là, on est en train de se... 8-7. Bon, 8-7, les amis. On est bien, là. Attention.
D'où la chouffe tire-t-elle son nom ? Du mot bière en flamand, de son amertume en bouche, chachouf, du petit village d'Achouf en Belgique.
Achouf
en Belgique.
À tes souhaits. Et c'est une nouvelle égalisation. On est à 8 partout. On va où ? On va jusqu'à 10, là ? Mais jusqu'où va-t-on aller ?
Mais on va jusqu'à ce qu'on peut. En 1840, le brasseur Christian Jacob installe sa brasserie Carlsberg près de Copenhague. Mais sur quelle colline ? La colline Carlsberg, parce que Berg, ça veut dire colline, en fait. Frederiksberg ou celle qui a des yeux ?
Celle
qui a des yeux.
La colline a des yeux, c'est en fait... C'est...
Allez, parce que c'est drôle, celle qui a des yeux.
Hey pardon.
Celle qui a des yeux.
Non.
Frederiksberg.
Bien joué, parce que c'était son fils qui s'appelait Frederiks. Non, c'est son fils qui s'appelait Karl.
Félicitations de cramer une réponse en faisant une vanne. Franchement, là, c'est beau. T'auras droit à un soufflage tout à l'heure. Parce que...
On va reparler de la goudale. La goudale est la déformation de good ale, qui signifie bonne bière. Mais à combien étaient vendues les bonnes bières chez un marchand ? 3 francs 6 sous ? Un quart de Badelaine ou 2 deniers ?
Vache. C'est hostile, elle est violente ta question là.
Ça a soufflé.
2 deniers.
2 deniers, oui.
Mais c'est odieux de gagner comme ça, c'est tellement faible. J'adore ce que vous faites.
J'aime beaucoup celle-là. Armel et Dominique ont créé la première bière corse, la Pietra, qui tire son nom du petit village de Pietra Serena, dont est originaire la famille du couple. Après un concert de quel groupe ont-ils créé cette bière ?
Imouvrini
en Corse,
ouais, oui.
Megadeth au Hellfest. Ah bah attends, le Hellfest. Hein. Ou les Musclés en Belgique.
Oh là là.
Imouvrini.
Une.
Imouvrini, oui.
Imouvrini.
Il est là, je ne l'ai pas goûté, la bière.
On remonte à 19. Attention, moi je suis hyper tendu là.
Attention, dernière question du quiz, les origines des noms et logos. L'afficheur doit son nom à son fondateur, Jean-Frédéric Fischer-Garnier. Comment cette Alsacienne s'appelait-elle à la base ? La brasserie de la choucroute, la brasserie de l'ours blanc ou la brasserie du lingot d'or ?
L'ours blanc.
Très bien.
Ah. Et cet ours qui nous mène à 11-9 pour Nicolas.
C'est la fin.
Vous avez prévu de manger, ami candidat ?
On fait le dernier quiz pour les départager et j'ai même une question bonus. Donc 2 points par question, attention.
Donc là, d'ici 2 heures, vous pouvez les manger, hein, pas de problème.
On repart sur un quiz bière ou bière.
Bière ou bière. Donc on rappelle le principe à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent.
Ce sont des quiz nuls. C'est ça le principe, en fait.
Oui, alors ça, c'est, non, c'est le fond, ça, j'ai envie de dire. Mais la forme, c'est que vous avez bière ou bière dans la réponse.
Voilà.
On rappelle le mythique Robespierre tout à l'heure,
la Robespierre,
qui était assez violent pour tous.
Un acteur français de 65 ans qui a été à l'affiche de Barbecue, De Gaulle, Sur la piste du Marsupilami, Matrix Reloaded, Palais Royal, Rouge Baiser.
Son père a été connu aussi.
Oh non.
C'est oui, si, bien sûr.
Dans Sur la piste du Marsupilami, on parlait de Céline Dion tout à l'heure. Oui, mais dans on en cherchait.
Matrix, c'est l'un des seuls français dans Matrix.
Ouais. C'est le seul français.
Ah oui,
on l'a vu. Lambière Wilson.
Lambière Wilson.
Merci.
Lambière Wilson.
Lambière Wilson. Oui.
Quelqu'un
oui.
D'atterrer autour
du
table.
Tu vois ce regard. Tu vois ce regard décomposé.
C'est le désespoir. C'est le désespoir. Je sais.
Quand les gens. Quand les gens font ça dans leur poste aussi, c'est une forme de réussite.
Alors attention, le fondateur d'Emmaüs.
L'abbé Pierre.
Non.
La bébière.
La bébière. Contribuer avec ses propres moyens. C'est apporter sa
bière à l'édifice.
Sa bière à l'édifice.
Je crois que même des brasseurs vont nous sauter dessus dans pas longtemps.
Alors, nos candidats sont Manon. Un peu jeunes, alors peut-être que ça va être difficile. Le film de 1994 avec Tom Cruise et Brad Pitt.
Oh la vache.
Il y a aussi Kirsten Dunst dedans.
Compliqué celui-là. Il est dur celui-là.
Et Christian Slater.
Faut penser aux gens qu'on est dans l'angle. Les gens qu'on est dans l'angle, vous y pensez?
Ça peut souffler pour... Entretien avec un vampire. Ça a été soufflé.
Donc, du coup, là, on compte pas celui-là. Parce que moi, je veux pas d'histoire.
Bah non, il y a pas de point là.
Attention, je veux pas d'histoire. Donc 12-11, toujours.
Allez, attention, ça va aller vite. L'avenue la plus célèbre de Marseille.
Ah bah oui.
Plus belle la
bière. Ça a été soufflé à ma droite.
Plus belle la bière. Attends, il y a une avenue
tu
à Marseille.
Tu souffles pas assez fort.
Oui, mais là, je l'ai pas.
Attends, mais à Marseille, il y a une avenue.
Non, plus belle.
Oui.
Mais non, mais c'est pas possible.
Ressouffle.
Ça. Oh la vache, c'est une avenue.
La canne bière.
La canne bière.
Mais moi, je croyais que c'était un port qui sentait la sardine.
Alors, est-ce qu'on doit les partager là ou pas?
Allez, on a 13-11.
13-11, donc ce sera une question bonus.
Question bonus, elle vaut combien?
À 1000 points.
À 1000.
C'est la question à lui.
C'est beau. C'est
une
c'est
chanson injuste. De Mickey 3D avec un rhume et Zébarien de le dire.
Ouais, il faut que tu...
Le bire.
Ah, il y a une petite dame dans le public qui l'a.
Il y a une dame qui l'a dans le public. Il faut que tu... Si t'es enrhumé, il faut...
Respire.
Il faut que tu respires.
Il faut que tu respires.
Exactement. Merci. Merci, Nicolas. Donc, tu triomphes. Tu gagnes 1011 à 13. Et ça, c'est beau. Donc, un grand merci, les amis, d'avoir supporté nos jeux de mots un peu débiles, hein, il faut le dire, mais c'est pour la bonne cause. Et
alors,
on va vous remettre des lots plus ou moins improbables pour vous remercier d'avoir joué avec nous.
D'un film de Steve Sturt.
Alors, le film original, c'est Over the Shop.
Over the Shop.
Même des.
Ça tombe à point.
Même des cinévoles ne le connaissaient pas. Donc, Over the Shop, on sauve son enfant en faisant des concours de bras de fer, on récupère la garde. Là, si vous. Bah, vous n'avez pas besoin de perdre la garde de votre enfant si vous en avez, hein, mais vous pouvez le conserver en buvant de la bière, ce qui peut être plutôt cool, surtout dans un festival de bière. On a le plaisir aussi de vous donner un petit sous-boc.
Graffiti Cinéma.
Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'on a d'autres lots pour nos amis? On a une superbe place. Et là, je pense qu'il va lâcher tous les autres lots pour prendre la place. Une place de cinéma, évidemment.
Attention,
également.
Je crois que la date de validité...
Est passée, mais on va pas le dire à vous.
Non, elle est passée. Non, mais elle est pas si éloignée.
Le seul podcast de ciné qui donne des places périmées.
Bah oui, c'est pour faire style devant les gens.
Un concept.
Et non, les perdants sont jamais des perdants chez nous parce qu'ils ont gagné notre respect et notre affection.
T'as pas offert la chope?
Et...
Oh là là là
la chope de la mort qui tue.
Je l'ai bien emballé.
Qui est bien emballé. On va mettre à peu près 8 ans à ouvrir ce paquet. Et c'est une chope qui est très pratique pour l'ensemble du festival. On a failli la garder pour nous, hein, pour être franc. Et voici cette chope qui sort d'un monastère qu'on vient de découvrir à Verdun, qui avait été. En fait, pas du tout. On l'a acheté au Super U, mais comme elle est assez stylée.
Non, elle est vintage. C'est
une chope vintage qui pèse à peu près 54 kilos. On est très content de te la confier.
Je crois qu'elle vient d'Allemagne.
Et en tout cas, un grand merci, Nicolas, d'avoir joué avec nous. Et en train d'usage, un grand merci. On t'applaudit encore pour ça.
Mais je ne sais pas plus comment elle fonctionne.
Alors voilà, notre perdante qui n'est pas vraiment une perdante, pas avec une vraie belle affiche.
Alors
on rappelle que c'est le cinéma Le Mail à Pithiviers qui nous a fourni cette affiche, qu'on remercie grandement. Oui, parce que le film, la suite de ce film est en train de cartonner en salle. Et là, on a l'origine, c'est-à-dire que l'Anone 2 cartonne et c'est l'Anone. Donc c'est pour une chambre d'enfant par exemple, c'est une super déco.
Voilà, pour une chambre d'enfant, c'est une...
Voilà, une...
Voilà, si vous voulez faire peur à votre gosse pour lui expliquer ce que c'est une chambre.
Ce que j'aime bien, c'est que Thomas, à chaque fois, il déplie les affiches.
Oui, il déplie les affiches, ils n'arrivent pas à les replier. Et en leur pliant, il les déchire. Et après, on doit les donner au candidat en récompense.
J'adore ça, à chaque
donc
fois.
Donc, ça, c'est un chef-d'œuvre absolu.
En plus, il apprend jamais dans le bon sens, regarde.
Voici la nonne, donc c'est vraiment une déco idéale pour un salon, des toilettes, c'est parfait. En tout cas, un vrai bon film de Jean en salle, on est très content, on te remercie. Sébastien.
Est-ce que je peux dire maintenant que Manon est ma compagne ?
Oui, bien sûr.
Donc,
merci de m'avoir fait gagner une affiche de la nonne, merci beaucoup.
On est quand même pas vache, on va vous laisser aussi repartir avec Over the Shop, parce qu'on n'est pas des bêtes. Vous en avez déjà une ? Vous pouviez pas en dire ? Non, qui refile ces trucs. En tout cas, un immense merci d'avoir joué avec nous, les amis. En tout cas, nous, on passe la parole à Loïc pour sa chronique. On parle de bière et de cinéma, mais cette fois-ci, Loïc, tu as une autre chronique pour nous.
On revient avec une chronique du lendemain.
Ah, virgule voilà. Du lendemain. Vous connaissez le mode d'emploi ? On va l'expliquer à tous ceux qui nous
écoutent. Alors bon, bah, pour rappeler à nos auditeurs toujours plus nombreux, je suis le voyant du grand écran, l'oracle du spectacle, la pitié de graffiti. Je décode les films, j'interprète les scénarii, je les raconte sans les voir. Alors, faut admettre, c'est d'une fiabilité variable, d'un réalisme approximatif, disons que je m'adapte. Donc vous parliez tout à l'heure de Marilyn. Eh bien, j'ai Marilyn, enfin presque. Je vous parle aujourd'hui de Marilyn et son juge, film de Jean-Pierre Améris avec Louane Emera, je sais plus,
Numéro,
je sais pas. Et Michel Blanc.
MMA ?
Allez, je vous le fais vite. Une nana paumée dans sa vie comme dans ses goûts vestimentaires se retrouve au tribunal pour avoir tapé sur son mec qui voulait la quitter. Alors, pour se retrouver au tribunal dans ce cas-là, si vous êtes un homme, ça va. Oui. Si vous avez mal dosé une caresse, vous y êtes. Mais si vous êtes une femme, c'est que vous y êtes allé de bon cœur quand même. La bonne tartine avec beurre, rillettes et gras de canard, quoi. Le juge est un petit homme aigri, désabusé, qui n'a de goût à rien. Et un homme non binaire, hein, il porte une robe quand même. Et le mécanisme est connu. Ils n'ont rien de commun entre eux, ils ne s'apprécient pas. Mais ils se parlent quand même, ils interagissent. Et finalement, ils se sauvent l'un l'autre de leur errance. Et Marilyn finit par se remettre avec le mec à qui elle avait mis une avoine. Ce face-à-face accidentel que ne renierait pas Pierre Palmade nous emmène donc dans un type de scénario, voilà, et personne ne tombera de sa chaise. Pas de surprise non plus pour la réalisation ou le jeu d'acteur. Louane Emera joue si vous êtes optimiste, elle a un jeu très naturel. Et si vous êtes pessimiste, elle joue comme une crêpe, c'est-à-dire c'est plat et c'est épais. Pas mieux pour Michel Blanc. J'appellerais d'ailleurs Michel Gris, tellement il est moins brillant que d'habitude. Ils auraient pu mettre Muriel Robin à la place, quand même, pour jouer Marilyn. Et tout ça parce qu'elle est homo, franchement, c'est quand même pas cool.
On va avoir des problèmes.
Alors, parlons d'autre chose. Comment épouser un millionnaire pour les désaxer comme cette fille, quand on sait que les hommes préfèrent les blondes ? Bon, je vous laisse 7 ans de réflexion.
Pendant
ces 7 ans, on verra sans doute Marilyn et son chien, Marilyn et sa mère, Marilyn à la plage, Marilyn boit de la bière, enfin bon, on va changer Martine en Marilyn. Mais on a toujours un petit goût pour ces films de genre tels que Sarkozy et son juge, ça pourrait être sympa, ou alors PPD et son juge, ça marcherait aussi. Mais ça, malheureusement, ça restera toujours que du cinéma.
Merci beaucoup, Loïc.
C'était
le Festival de bière d'Orléans. On était tous contents d'être entre passionnés. Merci beaucoup. Merci à tous.
Merci beaucoup. Merci.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis ? Pourquoi vous faites ça ?
C'est parfait. Reçu 5/5.